Classique 21, you rock.
Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous savoir à mes côtés sur le pont de notre cargo Radio Caroline. 1996, c'est l'une de ces années 6 dans lesquelles nous allons nous glisser au fil de différents épisodes, celui-ci entièrement consacré à un film phénomène qui fit scandale. En effet, 1996, c'est l'année où Trainspotting déferle sur les grands écrans, en février au Royaume-Uni, en mai à Cannes et en septembre chez nous. Réalisé par le Britannique Danny Boyle, révélé 2 ans plus tôt par sa comédie noire Petit meurtre entre amis, et qui sera couronné en 2009, bien plus tard, d'un Oscar du meilleur réalisateur pour Slumdog Millionaire. Mais en 1996, c'est Trainspotting qui l'occupe. Film culte des années Britpop, brillamment adapté par le scénariste John Hodge du roman Irving Welsh, publié 3 ans plus tôt. Son récit nous immerge dans le quotidien d'une bande d'héroïnomanes d'Édimbourg dans la seconde moitié des années 90 et dépeint avec une grande maîtrise visuelle les excitations et les affres de leurs existences. Une véritable tempête bouleversant les conventions que ce film, décevant ceux qu'il n'a pas séduit, comme le note très justement une plume anglaise qui poursuit. Depuis, le cinéma britannique n'a plus jamais été le même et son esthétique, autant que son audace anarchique, ont été copiées à l'infini. Un long métrage qui, en outre, et parmi d'autres, a révélé Ewan McGregor et Kelly MacDonald.
Choose life, choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a big television.
You're a quiet, sensitive type. A little bit crazy, a little bit bad.
Choose washing machines, cars, compact displays, and dental insurance.
You lied on your application.
Only to get my foot in the door.
What exactly attracts you to the leisure industry?
And what? Pleasure. Like, my pleasure in other people's leisure.
He's always been lacking in moral fibre.
He knows a lot about Sean Connery.
That's hardly a substitute.
Do you see the beast? Have you got it in your sights?
Clear enough, Mitch Moneypenny.
Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing junk food into your mouth.
The man is psycho, man. He's a mate. So what can you do?
What are you two talking about?
Football!
What are you talking about?
Shopping!
What's on the menu this evening, sir?
The dodgiest scam in a lifetime of dodgy scams.
Si les scènes crues, le casting mythique et le scénario trash teinté de slang écossais de Trainspotting ont impressionné rétines et neurones, ce film a aussi excité les tympans grâce à une bande originale au cordeau, il faut bien le dire, reflet des nouvelles vagues de la scène musicale britannique, à la fois post-punk et électronique, à l'instar du groupe Underworld, mais bande son pimentée également de classiques d'Iggy Pop, New Order ou Lou Reed. Décevant ceux qu'il n'a pas séduits. Je reviens sur cette phrase, cette affirmation, car c'est peu dire qu'à l'époque, malgré le succès fulgurant de Trainspotting, dans la presse et au sein des institutions, les deux clans, les pour et les contre, s'affronteront. D'abord, sur le fond. Le journal The Times écrit alors dans ses colonnes « Trainspotting pourrait devenir à la drogue ce qu'Orange Mécanique a été à la violence. Sauf que celui-ci, au moins, a été interdit. Il y a maintenant une grande partie de la population en Grande-Bretagne qui considère les drogues dures comme acceptables et c'est très grave. » Ce à quoi répondit Irving Welsh, le romancier par qui tout a commencé et dont le livre fut adapté. « Le réel problème, à mes yeux, est que trop de gens n'utilisent pas la drogue de façon positive, pour apprécier encore plus la vie, mais par réaction négative, pour fuir notre réalité morose. » Le véritable problème est là, la société britannique actuelle n'offre aucun espoir à ses citoyens. Une déclaration qui n'a pas dû arranger ses affaires. Mais c'est aussi sur la forme que le film divisera, même si on le verra, le temps fera son affaire. Écoutons d'abord ce qu'à sa sortie, la presse en dit. En Grande-Bretagne, The Guardian écrit « Trainspotting n'est pas exempt de défauts, mais il s'agit malgré tout d'une œuvre extraordinaire et d'un film britannique novateur filmé avec imagination, sans souci de plaire et interprété avec une liberté d'expression souvent étonnante. » En revanche, quelques mois plus tard, lorsqu'il sortira chez nous, Luc Honoré, qui fut longtemps le patenté critique cinéma du soir, écrit « Trainspotting devait, paraît-il, être l'événement scandaleux du Festival de Cannes 1996, mais il y fit rapidement un flop et fut immédiatement oublié au profit de deux autres films britanniques qui, eux, fouillaient réellement le malaise social actuel, Secrets and Lies de Mike Leigh et Land and Freedom de Ken Loach. À peine éveillé, poursuit Luc Honoré, le film s'endormit. Ce n'est que justice, Danny Boyle, son réalisateur, y joue au petit malin qui ne dénonce pas la drogue mais dit quand même que c'est très vilain. Qu'il ose être politiquement incorrect et il se rachète vite par une scène qui met en évidence les horreurs de la dépendance. Par exemple, à une séquence jouissive où un brave camé flanque carrément la mère de Nocturne qu'il a lâchée dans ses draps sur la table du petit déjeuner d'une gentille famille écossaise, succède un plan pesant, larmoyant et moralisateur d'un bébé mort parce que sa mère est une junkie. Boyle veut prouver qu'il a le courage de ne pas suivre la pensée unique de l'industrie cinématographique, mais se protège en truffant son film de clips à la MTV. Trainspotting a cependant une énergie d'enfer, mais au service de quoi ? De pas grand-chose. Signé donc Luc Honoré dans Le Soir en 1996. Et chez nos voisins français, où le film fut présenté à Cannes, Laurent Rigoulet écrit dans Libération « Trainspotting est vampirisé par une esthétique très mode et les délires des junkies beaux gosses parfaitement clippés, le film devenant une comédie adolescente comme beaucoup d'autres. Pour être juste, on dira que quelques scènes furieusement drôles et tout à fait dégueulasses sorties du cerveau tordu d'Irving Welsh rendent ce long métrage fréquentable. Mais s'il est rock, c'est sans déranger. » Un produit sur mesure pour la clientèle MTV. Encore une fois, cette référence. Et pourtant, bien plus tard, retournement de la critique. Comme dans Télérama, pourtant généralement implacable, lors d'une rediffusion télé deux décennies plus tard. Ce qu'exprime le film, c'est bien davantage une volonté de fuir par tous les moyens, y compris les plus destructeurs, une réalité pas franchement jojo. Le sentiment de révolte, légitime, contre les promesses fallacieuses de la normalité, métro, chômage, dodo, n'est désormais plus canalisé par une quelconque idéologie. Restent de grands ados qui font comme ils peuvent. Le thème n'est pas novateur, la manière si, speedée, provocante, crue, inventive, la mise en scène de Danny Boyle est une merveille de fluidité narrative. Elle s'accorde à la vision du réel qu'ont les personnages du film. Une simple succession séquentielle de segments de vie sans conscience du lendemain. Ajoutez des acteurs époustouflants et ça donne un film beau et triste. 1996. Lors de la promo de la sortie du film aux États-Unis, Danny Boyle est l'invité du talk show de Charlie Rose, diffusé sur la chaîne de service public PBS. Oui, car il existe une chaîne de service public aux États-Unis que tente aujourd'hui d'étrangler Donald Trump. Dans le décor sobre d'un infini noir, et sans en rajouter, Charlie Rose demande « Voulez-vous faire passer un message au sujet de l'héroïne dans votre film ?» Ce à quoi, comme on va l'entendre en VO, Boyle répond que l'idée, c'est de montrer l'addiction. Ça pourrait être l'addiction au foot, dit-il, mais on est au cinéma et l'héroïne est, disons, l'extrême de ce qu'on peut montrer.
Are you saying something about heroin?
It's more about, I mean, or if it wasn't, culture? Listen, if it wasn't heroin with them, it would be something else. Okay. You know, it's
so heroin therefore. It's about insignificant?
No, but it's because it's a piece of cinema in a way. It's the most, heroin is, I guess, the ultimate thing. It's the most extreme thing. It's the edge.
Après quoi, Danny Boyle explique que l'idée, en fait, c'est de faire vivre l'héroïne par procuration. C'est comme les rockstars, dit-il. On n'a pas envie d'imaginer qu'elle passe une bonne nuit après un concert. On a envie que le président passe une bonne nuit. Mais pas les rockstars. On a envie d'imaginer qu'elles se droguent, qu'elles détruisent leur chambre d'hôtel. De voir ce genre de choses au cinéma et puis de rentrer calmement chez soi. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec mon film.
And that's where we send people. We send our rock stars there. You know, we're complicit in that.
We send them where?
We send them. We want them to behave like that. I'm afraid it'd be very nice to say that we didn't. But we, you know, we don't want them
to fall into heroin.
We don't want them to have a good night's sleep after they've had a party, after they've had a concert. You go and watch them at a concert. You don't want them to have a good night's sleep. You want the president to have a good night's sleep. You want them, you know, I'm afraid, to smash up their hotel room and behave like we expect our rock idols to behave. These are the people we want to live at life, the extremes that we're all capable of, but we all probably and thankfully won't go there. But you want a certain group of people, their entertainers, the actors, to go there for you and be like that. And you watch it in the cinema and then you go home, you know, safely.
On l'a rappelé, la BO de Trainspotting est gorgée de ce que la pop indé british fait alors de plus excitant, Blur, Elastica, Pulp, Primal Scream, sans oublier des classiques de Lou Reed, New Order et Iggy Pop. Mais c'est le son du groupe Underworld qui imbibe deux de ses scènes les plus marquantes. Underworld est alors le fer de lance de l'électro-britannique, surtout depuis que ce groupe aux racines New Wave s'est réinventé à travers une fusion de reggae, de rock, de house et d'ambient, tel qu'élaboré en 1994, donc 2 ans plus tôt, pour leur légendaire album « Dub No Bass With My Headman ». Cela dit, au départ, pour le groupe, pas question qu'un de leurs titres se retrouve dans Trainspotting, comme l'expliquera Rick Smith, compositeur et membre fondateur du band. À l'époque, on nous demandait fréquemment d'utiliser notre musique dans des films ou des séries télé, mais c'était invariablement pour des scènes sombres liées à la drogue, aux boîtes de nuit et aux guerres de gangs. Bref, des scènes de chaos. Or, jouer notre musique en club, c'était à l'opposé de ça. C'était une expérience positive et exaltante pour nous, comme pour le public. Donc on refusait systématiquement. Mais Danny Boyle, le réalisateur plein de sagesse, nous a proposé de quand même venir voir un extrait du film. On en a vu une 15aine de minutes et on a été convaincus. Et c'est ainsi que Dark and Long d'Underworld sous-tendra une scène clé de Trainspotting, celle où le personnage principal, Mark Renton, incarné par Ewan McGregor, revenu chez ses parents dans le but d'arrêter l'héroïne, est englué dans les longues journées sombres d'un sevrage fait de crises d'anxiété et d'hallucinations, alors qu'il tente de dormir dans sa chambre d'enfant, au mur tapissé de vieilles locomotives.
I don't feel the sickness yet, but it's in the post, that's for sure. I'm in the junkie limbo at the moment. Too ill to sleep, too tired to stay awake. But the sickness is on its way. Sweat, chills, nausea, pain and craving. Need like nothing else I've ever known will soon take hold of me. It's on its way.
We'll help you, son. You'll stay here with us till you get better. We're gonna beat this together.
Maybe I should go back to the clinic.
No. No clinics. No methadone. Only made you worse. You said so yourself. You lied to us, son. Your own mother and father.
You can bring us some jellies.
No! You're worse coming off that than you are with the heroin. Nothing at all.
It's a clean break this time.
You're staying here where we can keep an eye on you.
I appreciate what you're trying to do, I really do, but I just need one more score, Lightly. Just bring me one more hit, please. I need one more fucking hit! You fuck! Hit!
It seems, however, I really am the luckiest guy in the world. Several years of addiction right in the middle of an epidemic, surrounded by the living dead. But not me. I'm negative. It's official. And once the pain goes away, that's when the real battle starts. Depression, boredom. You feel so fucking low, you'll want to fucking top yourself.
Tommy!
Radio Caroline.
Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
C'est à nouveau sur un morceau d'Underworld, BornSleepy.next, que se termine Trainspotting alors que le héros décide de changer de vie. Il s'agit de la phase B d'un single sorti quelques mois plus tôt qui, après son inclusion sur cette BO en épilogue, deviendra, on peut le dire, l'hymne de l'été 1996, pour les jeunes en tout cas, s'écoulant à plus d'un million d'exemplaires et passant en haute rotation sur les ondes radio et même celles de la BBC, comme s'en rappelle Rick Smith. L'expérience la plus bizarre que j'ai vécue, dit-il, c'est quand notre morceau est passé dans la matinale de BBC Radio 1. Je n'en revenais pas, c'était tellement incongru, je me suis dit, quoi, ce titre à la radio le matin? Mais quand est-ce que le monde a changé pour que ça ait sa place ici? C'était dingue, un vrai choc. C'est à la fois absurde et pas désagréable du tout. Je me suis dit, la musique est en mouvement, la culture est en mouvement, elle se répand. Elle prend un sens qui dépasse le simple cadre d'un sound system en boîte de nuit ou d'une sono dans une résidence d'étudiants. C'était vraiment génial. Et donc, cet épilogue, le voici.
So why did I do it? I could offer a million answers, all false. The truth is that I'm a bad person. But that's going to change. I'm going to change. This is the last of that sort of thing. I'm cleaning up and I'm moving on, going straight and choosing life. I'm
I'm looking forward to it already. I'm going to be just like you. The job, the family, the fucking big television, the washing machine, the car, the compact disc and electrical tin opener, good health, low cholesterol, dental insurance, mortgage, starter home, leisure wear, luggage, three-piece suite, DIY, game shorts, junk food, children, walks in the park, 9 to 5, good at golf, washing the car, choice of sweaters, family Christmas, index pension, tax exemption, clearing the gutters, getting by, looking ahead, the day you die.
Au sujet de ce qui lui a servi de matériau, le réalisateur Danny Boyle dira « L'audace époustouflante du jeu d'acteur est désormais une évidence, mais pour moi, le véritable frisson réside dans la qualité de l'écriture. Le livre d'Irving Welsh est un chef-d'œuvre moderne dont on pourrait tirer des films très différents. » Le scénario de John Hodge a su trouver le juste équilibre entre respect et irrévérence. Les deux auteurs avaient une approche déjantée et nous les avons tous suivis avec enthousiasme. C'est cette folie typiquement britannique d'être prêt à rire de tout. Et au fait, Irving Welsh, qu'en a-t-il pensé tant d'années après du phénomène que son livre, par l'intermédiaire du film, a déclenché ? Au départ, mon livre a suscité un véritable engouement auprès d'une certaine frange de la jet-set londonienne, les anciens punks. Ils l'ont tout de suite compris. Vu son sujet, qui abordait la drogue dure, je pensais que ça deviendrait un livre culte, mais pas un ouvrage marquant pour une génération, contrairement à ce que certains ont affirmé depuis. C'est étrange, mais il a pris une telle ampleur que lorsque je le vois en librairie, j'ai presque l'impression qu'il est écrit par quelqu'un d'autre. Au sujet de ces personnages qui peuplent en réalité 6 de ses romans, dont également Men in Love, paru en 2025, Irving Welsh explique. Ce que je peux dire, c'est qu'ils faisaient des choix que beaucoup d'autres doivent faire aujourd'hui. Ils étaient confrontés à une sorte de crise existentielle. À quoi bon exister si l'on est superflu ? À l'époque, on se moquait d'eux, tous ces hommes perdus, sans emploi, sans communauté, sans but commun. Aujourd'hui, c'est devenu un problème qui touche aussi beaucoup la classe moyenne. Et quand on le questionne sur Édimbourg, d'où il vient, où évoluent ses personnages, j'y retourne de temps en temps. Je suis fasciné par la façon dont elle est devenue un modèle de réussite pour toutes les villes du Royaume-Uni en matière de soi-disant régénération. Repousser les classes populaires en périphérie, agrandir le centre-ville et le remplir d'étudiants huppés, d'ultra-riches et de touristes. Édimbourg a toujours été une ville ouvrière, même si elle n'était pas prolétarienne et industrielle comme Glasgow. Cela a changé et la plupart des autres villes ont suivi ce modèle. 20 ans après le premier volet, Danny Boyle réalisera Trainspotting 2, toujours inspiré par les personnages créés par Irving Welsh pour ses romans Trainspotting et sa première suite, Porno, publiée en 2002. Avec à l'écran la distribution originale et notamment Ewan McGregor, Ewan Bremmer, Johnny Lee Miller et Robert Carlyle. Gros succès à sa sortie et récompensé à plusieurs titres par les BAFTA, les Oscars britanniques, meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur pour Ewan Bremmer. Quant à la presse, à nouveau, très différente selon qu'elle est britannique ou continentale. Le Guardian écrira « La suite du film culte n'est pas aussi rythmée et extraordinaire que l'original, mais c'est une ode drôle et émouvante à la désillusion masculine de la quarantaine, dont la prise de risque est largement récompensée. » En revanche, cette Madeleine de Proust sous extasie laissera un goût plus amer de ce côté de la mer du Nord. Dans Le Soir, Philippe Manche écrit « Certaines scènes sont hilarantes et la bande originale est top, mais on a quand même le sentiment que ce Trainspotting 2 patine. Et à part Spud, le reste de la clique fait peine à voir, au point que l'on ressort de la vision légèrement déprimé. » Quant aux In Rock, l'impression finale, comme souvent chez Danny Boyle, est celle d'une carrosserie rutilante ultra-tunée, avec pas grand-chose sous le capot. Le monde fermant le banc d'un implacable, en supprimant les substances chimiques, le réalisateur prive cette suite de la dimension pop que pouvait avoir l'original. Ne reste plus comme gimmick que les plans complaisants sur les latrines souillées et les sacs à vomi bien remplis. Une image assez juste, somme toute, du climat moral dans lequel baigne le film. Quant à Trainspotting 3, évoqué par les protagonistes, croisons les doigts qu'il n'en soit rien, tant la veine du romancier au fil des séquelles et préquelles s'est passablement tarie. Au fait, alors qu'en 2017 sortait le deuxième volet de Trainspotting, une étude britannique affirmait que, je cite, « les personnes de la génération Trainspotting, celle du film originel sorti en 1996, sont les plus susceptibles de mourir d'une overdose, comme l'indique la forte hausse des décès chez les 40-49 ans selon les statistiques officielles. » Rosanna O'Connor, directrice du département drogue, alcool et tabac du Public Health England déclarant « Nombre de ces décès s'expliquent par le fait que la génération Trainspotting, souvent en mauvaise santé physique et mentale, succombe malheureusement à une dépendance de longue durée aux drogues. Les décès liés à l'héroïne et à la morphine ont plus que doublé en 4 ans. » Un phénomène qui est alors amplifié par l'apparition du fentanyl, un opioïde de synthèse désormais mélangé à l'héroïne, pour en accroître la puissance, des associations caritatives signalant que de nombreuses personnes ayant commencé à consommer de l'héroïne dans les années 90 en sont 20 ans plus tard toujours dépendantes. L'un de ses responsables ajoutant « Si un jeune meurt d'une overdose, cela peut faire la une des journaux, c'est bien sûr une tragédie. » Si un homme de 40 ans vivant dans la pauvreté et la précarité décède, cela ne fera pas la une des journaux. Ce groupe de citoyens est extrêmement marginalisé et leur décès ne semble pas susciter la même attention. Un taux de mortalité lié à la consommation de drogue, héroïne mais aussi cocaïne, amphétamine et autres substances psychoactives qui est en 2017 chez les hommes de 67 décès par million d'habitants et chez les femmes de 24 décès par million, soit leur plus haut niveau depuis le début des relevés en 1993. En conclusion, gardons en mémoire l'apport bénéfique du Trainspotting originel, fût-ce sur le plan musical. Car, comme le note un observateur, l'œuvre ne se résume pas à un film générationnel sur l'addiction et le désenchantement. Il demeure une capsule sonore d'un Royaume-Uni en pleine mutation où les entrepôts, les free parties et les clubs londoniens sont devenus des laboratoires sonores où se croisent house, techno, breakbeat et ambient. La musique électronique n'est alors plus marginale, elle s'infiltre dans les charts et les grands festivals, transformant durablement la culture populaire britannique. Trainspotting n'a pas seulement accompagné l'explosion de la scène électronique des années 90, lis-je encore, il en a été l'un des accélérateurs symboliques. Sa bande-son résonne comme le battement d'une génération, autant que comme le manifeste du patrimoine musical de la Grande-Bretagne. Notre voyage à travers Édimbourg et les héros de Trainspotting se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, à l'étoiler. Belle journée ou bonne nuit. Radio
Caroline. Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.